Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette première édition de Terrain Basique. Mon nom est Tommy Godette et on s'est décidé avec mon ami Jason Keys. Salut mec.
Bonjour, bonjour.
Et Andy Jacques, salut. Hello. On a décidé donc à trois de vous offrir un podcast sur Magic the Gathering, un jeu qui nous passionne tout le monde, hein, je pense.
Oui.
C'est ça, moi un petit peu moins Andy, on l'a kidnappé, il est accroché à la chaise en tant que technicien. Mais toi Jason, ça fait quand même une tranche que tu joues à ça.
95.
Et ça c'est un jeu, ben moi en fait aussi j'ai commencé à cette époque-là. Et ça c'est un jeu qui est comme de plus en plus populaire depuis ce temps-là, la croissance est comme constante.
Ouais, ils ont résisté à l'invasion des jeux vidéo.
Et voilà.
Et
la compétition,
cartes, là, ouais,
de,
c'est ça, des
la compétition du déficit d'attention de notre génération.
Et voilà, puis d'ailleurs, salut à toutes les dames qui viennent de ne pas cliquer sur notre show. On peut pas garder sous le silence le fait que c'est pas mal souvent des parties de saucisses ces soirées-là. Pourquoi c'est ça, on sait pas, hein?
Ben, y en a, moi j'ai remarqué qu'il y en a de plus en plus.
Ben on le souhaite.
Quand je suis allé au Grand Prix de Montréal hier, puis j'étais content de voir qu'il y avait une relève.
Ben oui, ça prend ça, Andy.
Ben, je trouve que c'est important en effet, mais je pense que c'est comme n'importe quoi, là. C'est le concept du Boys Club, puis je pense pas que les portes sont ouvertes correctement pour que les dames puissent y pénétrer, là. Non, je suis pas mal certain qu'il y a plus de joueuses de Pokémon Trading Card que de...
Mais Magic fait des gros efforts.
Oui, non, clairement.
Ben, ça se voit, en fait, il y a de plus en plus une disparition des Boob Armor. Puis,
voilà, puis les Planeswalkers, ils ont y a beaucoup de
femmes
badass, exactement.
C'est ça. C'est pas
des Lianas.
Tout ça pour dire que tout le monde est le bienvenu à ce podcast-là,
dans d'autres mots,
c'est sûr et certain. Sinon, ben, c'est un podcast sur Magic the Gathering. Ça fait des années, des vingtaines d'années qu'on joue à ça. Mon monstre est Trample, il n'est pas piétinement. Vous allez avoir beaucoup d'anglicisme dans un podcast comme ça. Les noms de cartes aussi, on va les dire en anglais.
Je draw une carte, je ne pioche pas.
Et voilà, on draw des cartes. Des fois, on peut piger des cartes aussi. Ouais. Mais on ne pioche jamais les cartes. Et voilà. Sinon, peut-être pour commencer, on peut faire un petit tour de table pour évaluer le degré, le background de chacun. Des trois personnes qui vont vous accompagner dans cette aventure-là. Terrain basique au complet. On commence par toi, Jason. Parle-moi de quand t'as commencé, pourquoi t'as commencé, tes couleurs préférées, ces affaires-là.
Bon, je viens du fin fond de la Gaspésie. En 95, je suis venu à Montréal, puis j'avais 11 ans à l'époque, je pense. Puis j'habitais chez mon cousin, puis mon cousin, une bonne journée, lui, on collectionnait les cartes de hockey, puis à un moment donné, il arrive vendredi soir avec des cartes Magic, puis là, j'étais comme, c'est...
Moi
j'ai
aussi,
découvert quelque chose cette journée-là.
Moi aussi, je collectionnais les cartes de hockey avant de tomber dans Magic.
C'est le getaway, comment il dit ça, le get-in drug?
Ouais, c'est ça.
Le gateway drug.
Magic, c'est très simple, c'est un croisement de board game et de collection de cartes.
Ouais. Et de combo, parce que tu peux être meilleur que d'autres à Magic.
Mais non, mais c'est ça, tu joues à Magic pour avoir du fun et ensuite pour gagner.
Ouais.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé à jouer à Magic et j'ai joué vraiment intensément de 95 à 2001, jusqu'à temps que j'arrive au cégep. Puis au cégep, j'ai découvert d'autres hobbies.
Les femmes.
Des hobbies qui ne se mélangent pas.
Non, mais peu importe. Mais 2014, à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai eu comme une curiosité nostalgique. De hey, qu'est-ce qui se passe dans, tu sais, j'avais arrêté pendant comme 15 ans, puis là je me dis hey, c'est quoi qu'ils font à nouveau à Magic maintenant, puis là je suis allé à un draft. Ça, c'est, il y avait pas ça à l'époque, des drafts, puis à cette heure, c'est vraiment le format ultime selon moi.
Le meilleur
format de Magic,
c'est très
le draft. On va expliquer tout à l'heure pour ceux qui connaissent pas encore, mais je crois pas qu'il y en a là, mais on sait jamais comment ça fonctionne les drafts, c'est quoi les meilleures stratégies de draft. Donc c'est moi, je suis devenu re-addict par les drafts.
Est-ce que t'avais encore tes cartes?
Oui, ça prenait de la poussière. Puis,
et voilà.
Je me rappelle, ma conjointe était tout le temps comme, bon, quand est-ce que tu te débarrasses de ça vu que tu joues pas avec? Là, j'étais comme, un jour!
Attends un peu!
Puis
tu vois, hein, c'est en encore la femme qui voulait que t'arrêtes.
Écoute, j'ai bien fait de pas m'en débarrasser parce que là, je suis vraiment content de les avoir. Surtout, j'ai commencé à jouer les formats old school, Keppel, puis Legacy. Puis, en tout cas, une carte Magic, dès que t'en as une, joue à Magic longtemps, à un moment donné, elle va servir.
Oui.
Hein, parce que,
sauf les Wall of Wood.
Des fois, je suis comme, je vais essayer tel deck, puis je suis comme, tu sais, où je vois une liste passer sur Internet, puis je découvre que, hey, j'ai cette carte-là 4 fois. C'est...
Et voilà.
Puis là, t'as un deck.
Parce que c'est une des beautés du jeu, le fait que on sait pas ce qui s'en vient. Souvent aussi, ils sortent une nouvelle carte qui fait qu'il y a une affaire qui servait à rien dans le passé qui devient bonne et
ces
affaires-là comme ça. Donc là, toi, t'es deep dedans. Je pense que t'es allé au Grand Prix de Montréal. On va en reparler tantôt.
Grand Prix de Montréal, hein.
Toi, une deep. Ah, avant, c'est vrai, j'ai oublié. On a décidé d'un commun accord de vous mettre une trame sonore en background à chaque épisode. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter en background Legacy of the Wizard. C'est un jeu de NES qui date de 1988 et c'est un des meilleurs, selon moi. C'est un excellent jeu de NES, mais c'est aussi une excellente trame sonore. Voilà, donc c'est le jeu de la semaine. Andy, s'il te plaît, ton background de Magic.
Ah mon Dieu, un peu, mon parcours ressemble beaucoup au tien, Jason. Je pense, si je me trompe pas, c'est en 97-98, Ice Age. Donc, ça a été mon début, c'est un ami à moi qui est généralement l'instigateur de plein d'affaires. Là. Fait que c'est lui qui m'a comme initié à ça. Je m'en rappelle, là, j'étais à Longueuil, j'étais allé acheter mon premier deck... je sais pas si encore de même aujourd'hui, un starter deck. Et je me rappelle de ma plus forte à ce moment-là, c'était une Force of Nature, que aujourd'hui on s'en sac, là, mais...
C'est l'époque où on pensait que la Black Lotus, ça servait à rien.
Non, ça commençait, ouais, la Black Lotus commençait à...
Ça commençait, mais je me rappelle, à l'époque, on était tannés d'avoir des Urza Mind, des Urza Power Plan, des Urza
Tower. Des boosters de Chronicles, et il y en avait un par booster
exactement.
De Chronicles. Star, chacune de ces cartes-là, je veux dire, un des decks les plus forts en moderne, c'est le deck de Tron, qui utilise...
Ah.
4 fois chacun de ces lands-là.
Ben, c'est sûr. Si t'en mets une fois, t'es mal les 3.
C'est comme
ça
que tu peux caster des grosses bibittes 10-10.
Ouais, sûrement, là, ouais.
C'est un des decks les plus forts.
Continue.
Ben, évidemment, j'ai arrêté de jouer entre-temps, à peu près comme toi, là, je pense en 2000. Mais moi, c'est un petit peu après le cégep. Je suis un late bloomer.
Mais je me souviens, 2004-2005, ouais, je suis allé chez ton frère. Puis je suis tombé dans ses cartes, puis il a dit oh là ça traîne là, c'était à moi puis à Andy là.
Ouais, mais
puis hey, j'ai passé, il y avait comme une réunion de famille, mais c'était pas super important. Ouais. Je venais de tomber sur un jackpot de cartes de Magic.
Avec comme un voleur.
Ah puis j'en avais il échangeait avec Alexis, mon frère c'était un bon trader. Mais j'avais vraiment beaucoup de cartes. C'est une drogue là pour moi. Fait que j'ai recommencé il y a à peu près 2 semaines là, 3 semaines quand on était à Rouen. Fait que là, je vois la drogue qui revient dans mon corps.
Oh, c'est pour la vie maintenant.
Ouais, c'est chaud. Fait que c'est un peu ça mon historique. Hein. J'ai gagné un drafiage, ben heureux.
Ouais, on va en reparler tantôt. moi, Tommy, j'ai commencé, je viens de checker Ice Age, l'expansion, c'est juin 95.
Fait que c'est plus vieux que je le pensais.
Moi, j'ai commencé ma première session au cégep à Val-d'Or, automne 95. Je dirais que j'ai vraiment joué beaucoup. J'ai mis beaucoup d'argent là-dedans. Puis au début, je tripais sur le noir beaucoup. J'ai commencé à collectionner les cartes noires. Et j'avais une version de chacune des cartes noires qui existaient, sauf les Chains of Mephistopheles, parce que même à l'époque, elle valait genre 110-120$. Mais j'étais vraiment content de cette collection-là. Il y a un de mes amis qui m'a vendu ses cartes à un moment donné. Puis je me souviens, à cette époque-là, ben quand j'ai acheté ses cartes, ça m'avait coûté 110$. Et il y avait une trentaine de Dual Land dedans. Oui, c'est assez capoté. Et je te dirais, un an et demi plus tard, j'étais tanné de Magic, je sais pas pourquoi, ça a été une drôle de passe. Mais... j'ai commencé au cégep, moi. Oh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vendu mes cartes pour m'acheter un deuxième vidéo pour pouvoir faire des montages VHS. Oh. Ce qui est devenu très important pour ma personnalité et mon devenir personnel. Mais j'ai vendu pour 150$ quelque chose qui devrait valoir autour de 50-60 000 de nos jours. Donc, c'est pas mon meilleur coup en tant qu'investisseur. Je te dirais que longtemps par la suite, j'ai comme fait comme si ça existait pas, Magic. Et à un moment donné, j'étais rendu à Rouen en appartement. Il y a un de mes colocs qui a sorti ses decks. Là, il y avait des cartes de Magic. Là, j'ai comme recommencé à checker ça. Et il y avait la nouvelle dynamique, c'était Morph. Pis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, c'est avec 3 colorless, tu peux mettre ton monstre face contre la table. Fait que là, il est encore caché. Ouais. Ça devient un 2-2, pas de type, pas de couleur. Et j'ai trouvé que c'était tellement intelligent comme manière d'utiliser les cartes. Ben oui, tu peux faire des stratégies. Pis Puis là, ça m'a vraiment redonné à piqûre. Là, je me suis...
Que, tu parles de format morph qui t'a ramené, mais Khan of Tarkir est considéré comme dans les top formats les plus fun à drafter parce que justement, le
morph.
Set était basé sur le morph.
Ouais, ouais, c'est là qu'ils ont mis les méga morphs que tu ouais. peux être plus fort quand tu...
Ouais, puis Manifest qui est une forme de morph différente.
Ouais, c'était quand même pas mal cool, c'est, ça c'est, aussi.
Ça a ajouté une troisième dimension au jeu.
Voilà. Donc, moi, à partir de là, je me suis remis quand même pas mal solide dedans. Je suis allé voir mes amis qui m'avaient acheté des cartes, puis tous eux autres, j'ai dit, jouez-vous encore, ils jouaient toutes plus. Fait qu'il y en a eu plusieurs que j'ai pu leur repogner leurs cartes pour pas cher. Je me suis ramassé avec beaucoup de cartes en pas longtemps. J'ai eu plein d'idées de deck aussi après ça à pondre, là. À cette époque-là, vu que, tu sais, l'idée de manquer de Basic Land, ça existe plus vraiment de nos jours.
Non.
Mais dans ce temps-là, ça existait, manquer de Basic Land.
Ouais, parce qu'il y en vendait juste dans les
Starter Box.
C'est ça, c'est
pas
ça.
Dans les
et en fait, ils ont commencé à sortir des decks préfaits avec Invasion, un petit peu après ouais. Alliance, là, tourne un petit peu avant l'an 2000. Et là, avec ça, moi, j'achetais des decks préfaits et là, ça faisait des lands. Puis, tu sais, je veux dire aussi, c'est une bonne base pour comme revenir dans le jeu, comprendre des dynamiques d'un bloc en particulier, puis ces affaires-là. J'ai été un gros consommateur de decks préfets que j'améliorais pendant un bout de temps. Puis là, j'ai tout le temps eu aussi des idées de decks que je construis. Comme là, dernièrement, en fait, cette semaine, j'ai fini mon deck de Storm Cauldron, que j'ai commencé quelque part en 99, je pense, quand que un petit peu après que la carte soit sortie. Storm Cauldron, c'est 5 colorless, c'est un artefact qui fait que tous les joueurs peuvent mettre un land de plus par tour en jeu, mais qu'à tous les fois que tu tapes un land pour du mana, tu le remets dans ta main.
Oh shit.
Ce qui fait que, c'est ça, ça rajoute une dynamique. Après ça, tu mets des Ankh de Mishra, deux colorless qui font que quand il y a un land qui arrive en jeu, son propriétaire perd 2 d'énergie. Puis là, ben, moi, je me mets des artefacts pour donner du mana à la place. Fait que là, l'autre, il se ramasse étouffé dans sa bile. Puis là, tu peux rire de sa mère jusqu'à après-demain. Donc, voilà. Moi, c'est, puis là, ben, depuis, je dirais, en 2006, pour la première fois de ma vie, j'ai demandé en entrevue à une vedette s'il jouait à Magic. Et depuis, j'ai dû demander dans 70% le podcast que j'enregistre au Brouhaha avec Andy et avec les amis. J'ai dû demander à peu près à 600 vedettes s'ils jouent à Magic. Et une très, très belle histoire à propos de ça.
T'en as combien qui ont dit oui?
Ben, c'est le même ratio que de fans.
Qui jouent à Magic. Plus beau que ça encore.
Vin Diesel est un... Vin Diesel, c'est Donjon Dragon. Il a fait le film qui a été piraté par la Corée du Nord.
Seth Rogen
est un joueur de Magic.
Ok, voilà. Ben, sinon... Oui, ben oui, écoute, c'est abordable à tout le monde. Là,
c'est la plus belle histoire.
Je dirais, il y a autant de vedettes qui m'ont dit oui que j'ai de doigts. Fait qu'une dizaine sur 600. Et la première qui m'a dit oui, c'était à l'Halloween. On a amené le Ouija pour jouer à Ouija à la radio étudiante quand on faisait 70% à Choc FM à l'UQAM. Et là, on a mis Ouija sur la table. Et moi, j'ai un gilet des Nordiques de Québec. C'est le gilet d'entraînement de John Cordick.
Okay, ouais.
Parce que je l'ai acheté sur eBay pour 20$ parce que sa mère a dit qu'elle avait trouvé les affaires de son fils décédé dans le grenier. Et que le gilet sentait vraiment fort la sueur. Mais là, moi, je connaissais le truc pour faire disparaître les odeurs de sueur. Fait que j'ai dit, ben, je vais l'acheter. J'ai mis 20$, puis j'ai eu un vrai vintage gilet des Nordiques qui a appartenu à un décédé, John Cordick. Le truc pour faire disparaître la sueur, l'odeur, c'est de mettre vraiment beaucoup de sel. Puis j'ai fait baigner, je l'ai changé 3-4 fois d'eau en 3 semaines. Tu mets genre une boîte de sel au complet dans 3 litres d'eau, là, faire une saumure dense. Puis là, tu laisses baigner longtemps, puis il sent plus la sueur pendant tout. Et on avait le gilet de ce décédé-là à côté de la table de Ouija à l'UQAM dans la salle de radio. On a dit « Esprit, es-tu là? » Parce qu'on jouait à Ouija à la radio, ce qui est une des choses les moins radiophoniques au monde quand tu y penses. Et à un moment donné, ça a commencé à bouger. Puis on a « Esprit, es-tu là? » C'est allé vers « Oui ». Là, on dit « Esprit, est-ce que tu es John Cordick? » Puis là, c'est allé sur le 4, puis c'est allé sur le 4 après encore.
Oui.
Alors, tu ramènes au milieu le petit verre quand tu joues à Ouija.
Bien sûr, c'est pas toi qui avait.
Puis 44, c'est le numéro de John Cordick que j'ai sur mon gilet. Troisième question que je pose, « Esprit, es-tu là? Es-tu John Cordick? Esprit, est-ce que tu joues à Magic? » Puis c'est allé sur « Oui ». Donc, la première personne que j'ai interviewée qui jouait à Magic, c'est le fantôme de John Cordick des Nordiques et des Canadiens.
Dans des vivants, t'en as-tu?
Après ça, je te dirais une autre belle surprise, ça a été Israël Trudel-Denis, qui est devenu un co-animateur après ça, puis un ami proche. Sinon, il y a Cédric Taillon qui joue, Jean-Patrick Bertillon du Parti Rhinocéros qui est venu une couple de fois aussi. Mais j'ai pas genre une vedette que, tu sais, parce que j'ai interviewé Stéphane Bureau. Ouais. Stéphane Bureau joue pas à Magic. Non. Gérard Larose joue pas à Magic.
Tu veux, c'est
Philippe Schnob joue pas à Magic.
C'est tout des X, ça. Faut que dans les milléniaux.
Ouais, effectivement. Mais non, je peux pas nommer une surprise. C'est encore, je te dirais, marginal.
C'est une quête.
Ben, mais voilà, on
lâche Magic pas. A toujours été marginal.
Ben, c'est ça, on n'est pas encore dedans.
C'est toujours dans la marge.
Et donc, de nos jours, ben là, j'organise un podcast sur Magic et on fait des drafts au musée beaucoup. On joue aussi beaucoup au musée à chaque vendredi soir. J'ai aussi découvert une manière de comme serrer mes cartes qui m'aide à fouiller dedans. Une méthode de travail qui est le fun. Parce que moi,
pour les auditeurs.
Dans le fond, c'est très design, tu sais, les endroits où je place mes cartes et tout. Là, j'ai séparé dans plus de boîtes. Moi, je les mets pas en ordre. Si, mettons, je me fais un deck bleu-blanc, ben, je check ma pile de land spéciale, mes artefacts, mes bleus, mes blancs.
Moi, je vais par l'alphabétique. Ça demande la job d'organisation.
Ouais, c'est
la
ça,
discipline moi, de les remettre à leur place.
Et voilà.
Mais avec les années, je me suis rendu compte qu'en réalité, je chauffe beaucoup de temps. Parce qu'une fois que ça devient comme inné, je dire ça comme ça, là, de routine, tu viens de plus en plus bon, tu sais de plus en plus où sont tes trucs.
Ça, c'est sûr.
J'ai déjà réussi à faire des decks. Tu sais, comme, tu viens toujours à Magic. Dans 15 minutes, je faisais un deck parce que je savais où étaient mes.
Et voilà. Mais moi, j'aime mieux tout le temps scroller parce que comme ça, tu sais, mon cerveau vient qu'à faire un déclic.
Ouais.
En mélangeant deux affaires que j'avais pas vues. Puis c'est pas dans le même ordre aussi. Je réfléchis pas aux mêmes affaires dans le même ordre.
Si je peux dire, pour le bénéfice de nos auditeurs, ça fait pas mal de fois que je joue avec Tommy Godette à Magic. Puis il est un. Pour le format casual, qui, by the way, est le format le plus joué au monde. Tommy Godette est un des gars qui fait les decks les plus
mean.
En anglais, ils disent des janky decks.
Janky?
Ouais, janky. Jank deck, c'est vraiment un slang qui a commencé dans la communauté Reddit de Magic, je pense.
Ok.
Puis c'est resté, puis tu sais, c'est vraiment une catégorie de deck. Dans le fond, c'est un deck de combo.
Ok, ouais.
Des concepts comme ce que t'as parlé le tantôt avec le Cauldron. Mais moi, je trouve que t'es vraiment bon. Puis un des problèmes que je trouve qui tue Magic, c'est que bon, tu sais, c'est à cause d'Internet. Il n'y a pas ça le net decking, les gens qui prennent les decks sur Internet. Je fais ça beaucoup. Parce que souvent, c'est que c'est le hive mind collectif de tous les joueurs de Magic sur la Terre. Ils sont capables de faire les decks les plus forts si tu mets tel.
Ouais, c'est sûr et certain. Ouais,
mais moi, je trouve que tes decks, ils tiennent quand même la...
Arrête donc.
Punch above the wage.
Oh.
Fait que vous allez voir au cours de ce podcast-là, vous allez découvrir des affaires.
Ben oui.
Tommy Godette, moi je pense que je connais les combos, mais c'est parce qu'à chaque fois, tantôt Tommy Godette m'en a montré un nouveau que je pense.
C'est mon deck de chien, hein?
Le deck de chien, on va en parler.
On va parler du deck de chien, c'est ça. Ben voilà, c'est un petit peu notre profil de joueur de Magic. On peut parler du draft qu'on a fait au musée hier, parce que là, ces temps-ci, il y a une nouvelle collection qui vient de sortir.
Oui.
Les guildes de Ravnica.
Oui, les guildes de Ravnica. Le Ravnica, c'est le...
La planète ville.
La planète, c'est une planète recouverte d'une ville, puis dans cette ville-là, la ville de Ravnica, t'as des guildes qui sont représentées par des combinaisons de couleurs. Chaque double de couleurs se forme une guilde.
Ça fait 10 guildes.
Il y a 10 guildes parce que t'as 5 couleurs. Puis ces guildes-là luttent ensemble pour luttent un contre l'autre, un avec l'autre pour le contrôle de Ravnica. Puis c'est le premier set de Ravnica est sorti en 2005. Le deuxième, il a été tellement populaire. C'était notamment le premier set qui avait les cartes multicolores que t'as deux sur le casting cost.
Ouais, avec un slash, c'est ça. Que tu peux choisir la couleur que tu veux.
Ouais, ça pour renforcer le jeu. Puis ça a été tellement populaire qu'ils l'ont ressorti. Ils ont fait un retour vers Ravnica en 2013. Ça a été encore plus populaire. C'est le dans toutes les histoires de Magic, c'est le set qui marche le mieux, qui est le plus fun en draft.
Après,
Mais non, non, c'est...
Okay.
Ravnica est, selon Wizard of the Coast, leur plus gros brand.
OK.
Ouais. Parce que le premier set en 2005, puis en 2013, c'était dans les plus gros vendeurs.
OK, mais je pensais qu'Innistrad faisait partie du bloc de Ravnica.
C'est une controversée, il y a un débat là-dessus, on y reviendra plus tard.
On y reviendra plus tard,
mais... Tu vas parler d'Empire, il peut pas
plaire. Ah, ça aussi, on va y revenir. Ça aussi, on va revenir.
Ah oui, Homeland, trop fort.
J'ai complété récemment ma collection de Fallen Empire. J'en suis très fier. C'est la première fois que j'ai un set au complet.
J'ai réussi à faire le blanc dans le temps, genre. C'était aussi mon but.
Il y a encore des cartes de Fallen Empire qui
il
me semble qu'il y a End of Justice qui était comme la plus forte.
Non, non, mais ça c'est à l'époque, là, mais je veux dire qu'ils tiennent encore le bout, là, Order of Liberty et Order of Ebony.
Ouais, c'est vrai. Oh,
parce qu'ils ont protection.
Mon Dieu, oui.
Puis,
gonflé.
Il y a encore des decks quand même.
C'est deux colorless. En fait, deux mana noirs ou deux mana blancs.
Ouais.
Ça te donne un chevalier 2-1 qui est protection du blanc ou du noir, dépendamment si t'as le noir ou le blanc. Et que tu peux payer 2 noir pour le gonfler +1/+0 et un noir pour le rendre first strike.
Exactement. Ou un blanc dans
ou un blanc à l'inverse. Oui, oui,
voilà.
Sinon, donc, on était dans un draft, nous autres.
Ouais, vous avez fait drafter
de ce set-là. Je veux pas qu'on parle trop du format draft. On va y revenir dans une chronique plus approfondie. Mais ça a été le premier qu'on a fait hier au musée. On était 6 personnes sur une boîte. Ça a été une très belle expérience parce que le musée, il est fait avec plusieurs pièces.
Ouais.
Fait qu'on a pu jouer chacun, tu sais, sans trop se ce qu'on avait dans notre deck. T'sais, on n'était pas sur la même table un à côté de l'autre à pouvoir découvrir les cartes de l'autre.
Pour nos auditeurs qui connaissent pas le musée réellement.
Ben le musée de l'absurde, c'est l'endroit où j'habite et c'est aussi un endroit pas mal au centre-ville de Montréal. C'est pas mal communautaire. Il y a beaucoup de monde qui viennent et on a des portes ouvertes chaque vendredi dans lesquelles on joue à Magic. Voilà. Et hier, on a découvert le set. Moi, j'ai été très content que la majorité du monde sont pas allés faire des recherches avant. Tu sais, on ouvrait des boosters, on avait toutes des nouvelles cartes en pleine face à chaque fois. Et Andy, t'as pogné quelque chose, toi, qui nous a...
Qui vous a wipé.
Ouais, c'est ça, l'enfant.
J'ai pogné une mythique, et ça a été une mythique, je veux dire, qui est comme dans les plus rares, si je ne m'abuse. C'était ma première mythique à vie, en plus de ça.
Il ouvre un booster, il pogne une mythique.
C'est la première, là. Je veux dire, j'ouvre mon booster, c'est première carte, et c'est la March of the Multitude. C'est un convoke qui veut dire qu'on peut taper tu utilises tes créatures pour faire un ou la couleur de la créature.
Oui.
Et ça crée c'est un instant évidemment, c'est X un vert deux blancs.
Évidemment, je sais pas, là.
X un vert deux blancs et ça crée X nombre de White Soldier token avec lifelink qui est un des tokens de Ravnica. Il y a celle-là, il y a les Elf Knight aussi.
Il y a beaucoup de soldiers et lifelink.
La guilde dans Ravnica, c'est les Celestia, les verts et blancs.
Et voilà.
Puis c'est la stratégie, c'est d'y aller large, le plus possible de tokens.
Exactement. Puis beaucoup de convoke aussi. Fait que ça, dans le fond, je me suis ramassé avec un deck de convoke.
Ouais, parce que là, c'est une manière aussi d'utiliser tes monstres dès que t'es mets. Parce que tu peux les utiliser en convoke, même s'ils sont summoning.
Exact. C'est la guilde qui a le plus de créatures avec vigilance.
Fait que
le trick, c'est que t'attaques avec tes créatures, ils vont rester à me taper. Puis
après ça, t'es
pendant le tour de l'autre. Tu fais ton convoke après qu'il a attaqué là, puis t'as fait tes blocs puis ça.
Ouais.
Tu fais ton convoke puis c'est ça, c'est pour ça qu'il est très fort comme guild.
Ouais, c'est ce qui m'a permis de gagner.
Je pense qu'au total on a joué tout le monde, on avait 5 adversaires.
J'ai eu 10 victoires.
Donc des
2-3,
t'as perdu 4 games, genre.
Ouais, c'est ça.
Moi j'étais pour celui-là, j'étais noir vert.
Ouais.
Parce que le premier booster que j'ai ouvert, j'ai pogné Ancient Totem, là, le noir vert instant. Tu détruis un land d'Urza à ton adversaire qui peut aller chercher un basic land qui mange. Ben c'est un permanent, mais on s'entend que ça sert à tuer les lands d'Urza.
Puis ce qui était spécial sur notre draft d'hier, je sais pas comment ça s'est passé dans le deuxième draft, mais dans le premier draft, le bleu, personne n'a utilisé du bleu. Fait que là, on s'est tous ramassés avec des cartes bleues à la fin de nos. Parce qu'on, comme tu disais, on va l'expliquer comment ça marche le draft dans un futur épisode. Mais c'est ça. Fait que personne n'avait pris bleu. Fait que tout le monde avait pris soit vert, soit
rouge blanc.
Il y a eu deux decks de rouge blanc.
C'est une opportunité ratée parce que moi je suis allé au pre-release, c'est pas un draft, c'est un seal, c'est au lieu d'avoir 3 paquets, c'est 6. Et je trouve qu'une des couleurs qui va bien dans le niveau d'Avnica, c'est Dimir, c'est le bleu et noir.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il y a la mécanique Surveil. La mécanique Surveil, par exemple, une carte qui fait Surveil 1. Ben, tu regardes la carte sur le dessus de ta librairie, puis tu peux décider soit que tu la laisses là pour la piger au prochain tour, ou tu la mets dans ton graveyard.
C'est ça.
Ça permet de, en fin de game, tu sais, tu veux pas piger un land quand t'as déjà en masse de land, ça permet de t'en débarrasser. Puis, vu que le noir joue beaucoup avec le graveyard, donc,
t'as du cycling de graveyard.
Ben, tu sais, le graveyard que, dans le Dimir, c'est ta main. Tu sais, ça fait partie des cartes que tu veux.
Et puis, veut pas, la carte reste en jeu par rapport au scry que t'as mis en dessous de ton library, puis il est plus là.
Puis, il y a beaucoup de mécaniques qui en bénéficient. Comme par exemple, t'as une carte, ça s'appelle Disinformation Campaign, campagne de désinformation.
Fake news!
Ben, c'est juste, ce qui est drôle, c'est que c'est de ça qu'ils se sont inspirés, justement, parce que la politique dans la vraie vie, vous allez voir, influence quand même beaucoup les cartes magiques. Parce que c'est des référents culturels.
Ben, c'est sûr.
Fait que Disinformation Campaign, c'est un colorless, un noir, un bleu. C'est un enchantement. Chaque fois que tu surveilles. Non, c'est quand tu la poses en jeu, l'enchantement, tu piges une carte, puis ton adversaire jette une carte qu'il choisit lui-même. Là, tu te dis, quand tu regardes ça la première fois, tu fais comme, ouais, je vois pas comme qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans. Le problème, c'est que chaque fois que tu surveilles ensuite, tu peux ramener Disinformation Campaign dans ta main. Puis, quand ça arrive vers le tour 6 ou 7, que t'as assez de mana pour le faire, peux. Moi, j'ai eu des games où j'ai mis 3-4 fois Disinformation Campaign en jeu. Là, c'est plus la même game, là, parce que l'autre, il n'y a plus de main, puis toi, tu continues à piger des cartes.
Ouais,
puis le surveil, le mécanique surveil fait que si t'aimes pas la carte que tu vas piger, ben, tu l'envoies dans le graveyard. Donc, je pense que le bleu et noir, notez ça, je pense que le bleu et noir en draft, là, c'est une valeur sûre.
Ben, dans ce bloc-là, en tout cas.
Dans ce bloc-là, oui, et dans ce bloc-là.
Le deuxième draft qu'on a fait, nous, finalement, je me suis ramassé bleu-vert, et mes créatures bleues, j'ai beaucoup aimé, j'ai oublié son nom, c'est un magicien 1-4, un bleu, deux colorless, tu le manges puis tu surveilles deux.
Ouais.
Puis voilà, j'avais 4 dans mon deck, puis ça a vraiment fait de la
différence. Je pense que c'est deux. C'est-tu le courrier? C'est comme une femme avec une enveloppe dans
C'est
deux colorless, un bleu.
C'est ça.
Un 4, puis tu surveilles 2.
C'est
quand même bon. Puis ils ont aussi dans cette couleur-là, dans le Dimir, la mana hybride qu'ils appellent, c'est-à-dire mana bleu ou noir.
Ouais.
J'ai oublié le nom, là, c'est colorless bleu-bleu ou noir-noir. Il y a flash.
Ouais.
Il fait exactement la même chose, c'est un 3-2. Puis tu surprends de 1, puis il surveille de 1.
Lui, je l'ai gardé pour future utilisation, je pense que ça va arriver.
Ton affaire, c'est Dimir Informant.
Et voilà.
Un rogue, human rogue.
Ouais.
Un rogue en plus. Merci beaucoup, Andy. Je pense que c'est pas mal ça, l'expérience du draft au musée. C'est sûr qu'on va en avoir d'autres dans le futur, parce que draft, c'est vraiment le fun.
Le format
numérique. On joue à ma job aussi. Sinon, ça nous amène... ben en fait, au sujet du Grand Prix de Montréal, tu connais-tu quelqu'un qui est allé là, toi?
Le Grand Prix de Montréal, c'est un des événements officiels de Magic. Ils font à chaque semaine ou chaque deux semaines, c'est une nouvelle ville où ils s'installent. C'est un grand tournoi, c'est le Daytona des geeks.
Et voilà, c'est...
Tu sais pas comment il y avait de jeux. C'était hier à la place Bonaventure, là. C'est un gros centre de congrès au centre-ville de Montréal. Il devait avoir 1000, je sais pas il y avait combien de joueurs, là, mais la salle était pleine, peut-être 1000, 1500, je suis pas sûr. L'événement principal qui coûtait 100$, c'était un seal de Ravnica, justement. Moi, j'ai pas participé à ça parce que comme, j'avais pas 100$ à mettre là-dessus. Cependant, j'ai fait t'as des side events qui sont pas dans le Grand Prix comme tel, qui est un trophée à la fin, là. Les side events, c'est tu payes 25$, puis c'est généralement c'est à 60 joueurs. C'est du compétitif. Donc moi j'avais pris le format standard, qui est le format qui est toutes les cartes depuis 2017. Et c'est la première fois de ma vie que je gagnais autant. Je me suis fait un deck mono bleu dans standard. Et j'ai gagné c'était 3-0, 3-0, 3-0, parce que tu rencontrais 3 adversaires.
Là. OK.
Puis à la fin de la journée, ben, je me suis ramassé avec 3 boîtes de booster.
Quand même, hein?
C'est...
The Guilds de Ravnica?
Ouais.
Oh, il est venu flasher ça ici.
Ouais.
Mais bravo, félicitations.
Ouais, je m'attendais pas à ça, parce que j'ai joué un deck budget.
OK.
Puis c'est un deck qui est un peu controversé présentement chez les pros.
Oh.
Parce que c'est un deck qui vaut à peu près 30$. qui utilise Tempest Djinn. Tempest Djinn, c'est bleu, c'est une créature. Tu peux pas la jouer dans un deck de plusieurs couleurs parce que bleu, c'est
plus difficile. Ouais, ça devient difficile, trois bleus.
Elle est 0-4, sauf que Flying, c'est un djinn. Ça, c'est dans le set de Dominaria. Et son power, par contre, est en fonction du nombre de Island dans le fond de Basic.
Oh, shit,
ouais.
Puis, tu joues ça en combinaison avec un Ancient Creature qui vient de Ixalan, le set de pirates qui est sorti l'année passée, qui s'appelle Curious Obsession. C'est un Ancient Creature qui plus coûte un bleu. Il donne +1/+1 à tes créatures. Chaque fois que tu touches un joueur, tu piges une carte.
Mais c'est un Ancient Creature.
Ancient Creature. Ouais. Après ça, tu joues 4 Mistbinder Merfolk. Non, excuse-moi, c'est Mistbind Herald. C'est un Merfolk 1-1 qui coûte un bleu. Warrior. Il est imbloquable. Fait que dans le fond, tu te mets ton Curious Obsession sur lui.
Tu payes une carte de plus à chaque tour.
À chaque fois que tu touches. Ou sinon, les 4 autres créatures, c'est Siren Stormtamer. C'est une 1-1 qui coûte 1 bleu. Flying. Tu peux la sacrifier pour counter un spell qui target. Fait que dans le fond, c'est un counter spell.
Un counter spell.
Ah, ben ça,
oui. Puis le reste, c'est, tout le reste des cartes dans le deck, c'est du,
pourquoi
du counter spell.
Pourquoi c'est contesté?
Non, mais c'est parce que le
ça coûte pas cher.
Le deck est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le deck m'a coûté. Ben, c'est, je l'avais accumulé avec des cartes de draft, là, mais quelqu'un qui voudrait l'acheter demain matin va payer peut-être 30$. Ce qui coûte le plus cher, c'est le sideboard, tu sais. Comme, c'est des cartes particulières à chaque deck de rencontre, mais il est vraiment cheap. Puis il va vraiment. Le problème, c'est qu'il est très difficile à jouer parce que c'est un deck que tu prends ton temps.
Wow.
En général,
il faut
tu fais
que
tu
bluffes aussi parce que t'as des counter spells.
Fait que c'est long de tuer quelqu'un.
Ouais.
Mais parce que dans le fond, c'est ton djinn qui coûte 3, tu le casses pas au tour 3. Tu le casses au tour 5,
ouais.
6. Parce que t'attends d'avoir tes counter spells.
Ouais, pour
puis,
le back et
J'ai des blink aussi, ça rebound les créatures de l'autre ou les planeswalkers de l'autre dans sa main.
Et voilà.
Puis, fait que hier, je pétais des decks qui valaient 500$, 600$.
Dans le fond, où tu dis, ça change chez les pros parce qu'il aurait aimé ça penser à cette idée de deck-là.
Non, mais le deck vient d'un pro, vient d'un japonais. Le deck vient d'un japonais qui a participé au mondial et qui est un gros tournoi, là, tu sais, c'est le top des tournois des
pros. Ouais.
Mondial, c'est les meilleurs joueurs de Magic de chaque pays. Là. Puis tu sais, imagine le meilleur au Japon.
Il arrive avec un deck qui vaut 30$.
Mais il allait
gagner. Magic bitches.
Il allait gagner, ça allait super bien sur le tournoi. Le problème, c'est qu'il est triché.
Ah!
Il a mal joué. Magic, c'est quoi? Il s'est injecté quelque chose?
Non, okay.
Il avait une carte copiée.
J'ai oublié.
Il utilisait une carte Pokémon.
Je pense qu'il a mis un deuxième land de trop, quelque chose de genre. Il s'est fait poigner, puis il a été disqualifié. Mais là, tu sais, il y a un débat, est-ce qu'il se serait rendu à la. Parce qu'il était aux portes de gagner. Depuis ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui ont repris ce deck-là, comme sur Magic Online, Magic Internet, c'est Magic Online puis Arena.
Ok.
Donc, vu qu'il est pas cher, ben, comme tout le monde, tu sais, c'est comme la démocratisation de ce temps-là.
Ben oui, ben oui.
Écoute, j'ai gagné 3 boîtes, puis ça fait comme 20 ans que je joue à Magic, j'avais jamais gagné 3 boîtes. J'ai hâte de voir si ce deck-là va se maintenir, parce que s'il vient populaire, là, les mondes vont avoir des...
Il va falloir contre-attaquer. Mais c'est fort, les counter-spells aussi, en cette
estime. Mais c'est que, comme tu vois, hier, j'ai joué contre des decks control. Un deck control, c'est des decks qui, généralement, ils sont 3 couleurs, puis ils jouent des playwalkers, tu sais, il y a peu de créatures, là.
Ouais.
Puis écoute, j'ai eu des games hier où ce que... je counterais un de ces spells qui counterait que je counterais. Avec le mono bleu, ça l'arrive.
Tu
counter des counters qui counter. Là, ouais. le plus haut que j'ai eu, c'est 3. Il y avait le stack qu'appelle, là, que les spells s'embarquent un sur l'autre. Moi j'avais un counter spell, il aimait un counter spell, j'aimais un counter spell.
Et voilà.
Mais moi, je trouve que c'est ça qui est le fun. Le terme pour ce genre de deck-là, il appelle ça des decks tempo.
Okay.
Parce que dans le fond, c'est que tu joues pas des grosses cartes fortes, mais ta stratégie, c'est de débalancer l'adversaire. C'est chaque chose qu'il va jouer, il va perdre son temps. Tu vas ramener des cartes dans sa main.
Ça, c'est une des vérités de jeu, là aussi.
Ouais.
Un Disenchant à 500 peut tuer un combo à 400$.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est pour ça que Magic est profond, Magic est grand, ouais. Magic est beau, et on va continuer à l'explorer à chaque semaine ici à Terrain Basique. Merci beaucoup, Jason Keys. Bravo encore pour ta belle performance au Grand Prix de Montréal.
Ouais.
La semaine prochaine, on devrait parler de l'histoire de la création du jeu. Et peut-être différents formats de Magic the Gathering. Aussi, on va parler de c'est quoi nos couleurs préférées. Merci beaucoup, Andy.
Un plaisir.
Merci, Jason.
Merci.
C'était
beaucoup.
Terrain Basique.
À la prochaine.
Je suis Tommy Godette. À la semaine prochaine.
participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.